France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. À Bruxelles, les 27 affichent leur soutien à l'Ukraine et discutent du renforcement de la défense européenne. En même temps, le Royaume-Uni discute avec une vingtaine de pays du maintien de la paix en Ukraine dans le cadre d'un éventuel accord de cessez-le-feu. Nous irons à Londres. Aux États-Unis, Donald Trump s'apprête à demander à sa ministre de l'Éducation de démanteler son ministère. Et Linda McMahon est prête à s'exécuter. Explication de Valérie Cantier. À un an des élections municipales, Martine Aubry passe la main à son premier adjoint. La maire de Lille dit vouloir laisser la place à une nouvelle génération. Nous analyserons sa décision avec Stéphane Robert. Et puis la plateforme de streaming Prime Video va proposer des films doublés grâce à l'intelligence artificielle. Cette nouvelle offre, pour l'instant en anglais et en espagnol, vient confirmer les craintes des comédiens de doublage. Nous ne sommes pas seuls, déclare Volodymyr Zelensky à Bruxelles. Accueilli au sommet exceptionnel qui rassemble les 27 dirigeants des pays de l'Union européenne pour soutenir son pays, le président ukrainien fait part de sa reconnaissance. Plus tôt dans la journée, il a appelé à ne pas relâcher la pression sur la Russie. Hier, une frappe sur Kryvyi Rih dans le centre du pays a fait 4 morts et plus de 30 blessés. Des humanitaires américains et britanniques étaient logés dans un hôtel qui a été visé. Vous êtes sur place, Virginie Pironon, vous avez rencontré ces humanitaires. Humanitaire sous le choc.
Exactement, et devant cet hôtel, l'hôtel national, totalement éventré par un missile balistique, alors que des tractopelles dans une poussière épaisse tentent de mettre un peu d'ordre dans les débris qui jonchent le sol, et en pleine nouvelle alerte aérienne, ces humanitaires étrangers, deux Américains et un Britannique, sont tout étonnés de s'en être sortis. Igor Logvinov et leur partenaire ukrainien, ils étaient ensemble au restaurant quand la frappe a eu lieu à 22h.
On n'a pas eu vraiment le temps. Du tout. C'est juste 10 secondes et bam, on est tombé par terre, tous. Avec nous, il y avait une femme enceinte avec un enfant de 6 ans. Alors nous, première chose, on avait peur pour eux.
Tous travaillent pour l'ONG britannique Ukraine Relief et ont rencontré la semaine dernière à Londres l'ambassadeur ukrainien, l'ancien chef d'état-major Valery Zaloujny. Cette frappe pour Adam Carmel, humanitaire de nationalité américaine, n'est peut-être pas un hasard.
Bien sûr, c'est trop tôt pour le savoir, mais ça paraît logique. On ne sait pas exactement comment on nous a repérés, mais il n'y a eu qu'un seul missile hier soir.
Karol Zviatsky est le directeur d'Ukraine Relief. Pour lui, cette attaque est du pur terrorisme.
Vraiment, est-ce que c'est ça le monde libre? Parce que j'ai entendu quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique qui dit que c'est de la propagande, qu'il n'y a pas de guerre. Eh bien, laisse-moi te dire, viens voir sur place et vis un peu ce que les gens vivent ici. Pense pas être un gros dur derrière ton bureau qui passe juste son temps à regarder des vidéos débiles sur YouTube en pensant tout savoir du pays. Il faut agir aujourd'hui, pas de temps à perdre. Les gens sont en train de mourir.
Il n'y a pas de temps à perdre, pas de pourparlers à mener, selon lui, avec Vladimir Poutine.
Virginie Pironon à Kryvyi Rih avec Martin Troadec et Yachar Fazilov. L'Europe et l'Ukraine sont à un moment décisif, a déclaré Ursula von der Leyen en ouverture du sommet extraordinaire à Bruxelles. Pour la présidente de la Commission européenne, l'Europe est confrontée à un danger clair et immédiat et doit être en mesure de se protéger, de se défendre. Le Premier ministre britannique partage cette analyse. Une semaine après son annonce d'une augmentation du budget de la défense, Keir Starmer s'est rendu dans le nord de l'Angleterre, dans un site stratégique de construction navale, et le chef du gouvernement britannique se positionne comme un facilitateur entre les États-Unis et l'Europe, Laura Kalmus.
Le Premier ministre britannique se livre depuis plusieurs jours à un véritable numéro d'équilibriste, enchaînant les rencontres et les appels avec Donald Trump, Volodymyr Zelensky ainsi que les dirigeants européens. Hors de l'Union européenne mais proche géographiquement, le Royaume-Uni semble vouloir jouer un rôle de pont entre Bruxelles et Washington. Il apparaît même comme un médiateur potentiel entre le président américain et ukrainien. Cet après-midi, Keir Starmer a réitéré ses objectifs.
Nous avons préservé la paix pendant 80 ans en travaillant à la fois avec les États-Unis et l'Europe. Et ce n'est pas le moment de rompre cette alliance. La sécurité du public britannique est ma priorité absolue. Nous l'avons assurée en collaborant avec les États-Unis. Aucun autre pays ne travaille aussi étroitement que nous sur les questions de défense et de sécurité en partenariat avec nos alliés européens.
Le Royaume-Uni discute également avec une vingtaine de pays d'une possible coalition pour le maintien de la paix en Ukraine. Une idée évoquée dimanche à Londres. L'envoi de troupes avait déjà été abordé par Keir Starmer et d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre britannique multiplie les initiatives. Il a annoncé aujourd'hui la livraison de nouveaux drones à l'Ukraine, tandis que son ministre de la Défense est à Washington pour rencontrer son homologue américain.
Laura Kalmus à Londres. Hier soir, lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a annoncé la réunion à Paris des chefs d'état-major des pays européens prêts à garantir une future paix en Ukraine. Elle se tiendra mardi prochain. Dans son discours hier soir, le président de la République a qualifié la Russie de menace pour la France et pour l'Europe. Aujourd'hui, Moscou dénonce ses propos avec la plus grande fermeté. Pour les autorités russes, cela veut dire que la France et par extension l'Union européenne sont en faveur de la poursuite de la guerre. La correspondance de Jean-Didier Revoin à Moscou.
En cette fin d'après-midi, c'est Vladimir Poutine qui s'est livré à un propos acerbe. Dans le monde, il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de l'invasion de Napoléon, mais ils oublient comment cela s'est terminé. C'est ce qu'a dit le président russe à propos de la redéfinition de la politique nucléaire de la France, tout en se gardant bien de nommer le président de la République. Un commentaire qui est venu préciser les propos tenus dans la matinée par Dmitri Peskov. Le porte-parole du Kremlin avait en effet qualifié d'extrêmement confrontationnel la rhétorique et la prétention française au leadership nucléaire en Europe. La diplomatie Massirus a pour sa part balayé d'un revers de main l'option d'un déploiement de troupes européennes en Ukraine. Pour son chef, Sergueï Lavrov, une telle opération ne signifierait pas une guerre hybride, mais une implication directe de l'OTAN dans le conflit avec la Russie. Moscou rejette tout aussi vigoureusement l'option d'un cessez-le-feu temporaire, une proposition inacceptable dans la mesure où, pour les autorités russes, cette trêve offrirait un répit à Kiev pour renforcer ses capacités militaires et entraînerait à terme une reprise des combats. En définissant la Russie comme une menace pour la France et l'Union européenne, Emmanuel Macron a radicalisé les positions de Moscou, comme en témoigne le propos de Vladimir Poutine. La Russie ne cédera à personne. Elle a besoin d'un règlement sur l'Ukraine qui lui garantisse un développement pacifique dans des conditions de paix et de sécurité à long terme.
Jean-Didier Revoin à Moscou. Le rapprochement entre Vladimir Poutine et Donald Trump est diversement commenté dans la classe politique française. Il trouble le Rassemblement national et la France insoumise qui ont pu, dans le passé, avoir à la fois un discours pro-russe et anti-atlantiste. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Aurélie.
L'invasion de l'Ukraine, il y a 3 ans, avait déjà mis en difficulté Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, Antoine.
Marine Le Pen, effectivement, et Jean-Luc Mélenchon s'en étaient sortis par un virage à 180 degrés. Les deux candidats avaient condamné l'invasion de l'Ukraine après avoir dit chacun quelques semaines plus tôt que la Russie ne représentait pas une menace. Pour la chef de file des Insoumis, Mathilde Panot, invitée ce matin de France 2, tout se passe comme si Jean-Luc Mélenchon avait eu raison de se tromper.
Les renseignements français disaient que jamais la Russie n'allait envahir l'Ukraine. Donc Jean-Luc Mélenchon, se basant sur ce qui était dit par les renseignements français, disait la même chose. Mais depuis, que s'est-il passé ? Jean-Luc Mélenchon est le premier homme politique à avoir dénoncé les violations de la frontière par Vladimir Poutine.
Mais dans cette interview, il est très peu question de Vladimir Poutine. Mathilde Panot concentre ses attaques sur Donald Trump en dénonçant l'alignement sur les États-Unis et l'OTAN. Le Rassemblement national, quant à lui, semble beaucoup plus hésitant face à la nouvelle donne Trump. Samedi dernier, Marine Le Pen avait banalisé l'affrontement verbal survenu la veille entre le président américain et Volodymyr Zelensky. 2 jours plus tard, elle critiquait les injonctions contradictoires de Donald Trump. Ce matin sur TF1, c'était au tour du député RN Sébastien Chenu de porter la voix de son parti sur le nouvel ordre mondial que l'on pourrait résumer en ces mots: arrose sur l'Union européenne et Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron joue sur les peurs pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Comme ça, pendant ce temps-là, on ne parle plus d'immigration, on ne parle plus d'insécurité, on ne parle plus des finances publiques de la France, on ne parle plus du Mercosur qui tue nos agriculteurs. On dit aux Français, c'est bientôt la guerre face à la Russie, ayez peur, faites confiance à votre bon président Macron. Tout ça est une honte parce qu'il utilise le drame de l'Ukraine pour finalement faire avancer un agenda fédéraliste dont ne veulent pas les Français.
Et pour Sébastien Chenu, Vladimir Poutine ne constitue pas la menace principale pour la France. Pour lui, la première menace sur le sol français, c'est l'islamisme.
Antoine Maret, selon plusieurs médias américains, dont le Wall Street Journal, Donald Trump devrait signer dès aujourd'hui un décret visant à supprimer tout bonnement le ministère de l'Éducation. La nomination de Linda McMahon vient tout juste d'être validée par le Sénat. Elle avait été ministre déléguée aux petites entreprises dans la première administration Trump, ancienne dirigeante de la plus grande fédération de catch. Elle a donc pour mission de mettre son ministère à terre et de laisser le domaine de l'éducation entièrement aux mains des 50 États, Valérie Cantier.
Linda McMahon est en quelque sorte une ministre fraîchement nommée qui sait d'ores et déjà qu'elle va bientôt être virée, selon les termes de Donald Trump. À 76 ans, cette riche donatrice du Parti républicain prend en charge un ministère de l'éducation qu'Elon Musk a déjà commencé à démanteler. La semaine dernière, en effet, les fonctionnaires se sont vus proposer un chèque de 25 000 $ s'ils acceptaient de partir à la retraite ou de démissionner dans les 3 jours. Et Linda McMahon approuve le sort réservé à son nouveau ministère.
La plupart de nos problèmes sont dus au pouvoir grandissant du système fédéral d'éducation. Quel est le remède ? Financer la liberté d'enseignement et non pas des programmes dictés par le gouvernement central, écouter les parents, pas les politiciens, bâtir des carrières et non augmenter la dette étudiante, investir dans les enseignants, pas dans les bureaucrates de Washington.
Linda McMahon est surtout connue pour avoir été la patronne de la plus grande ligue de catch, la WWE. De nombreuses vidéos violentes du début des années 2000 ont refait surface depuis sa nomination. Sur le ring, on la voit se battre avec sa fille, avec un catcheur professionnel ou encore avec son fils, toujours avec son brushing impeccable, son tailleur et ses bijoux clinquants. Ses coups d'éclat et son inexpérience font de Linda McMahon la 6e ministre de Donald Trump, confrontée à l'opposition de tous les sénateurs démocrates à l'unanimité lors de son audition au Sénat.
À noter qu'une suppression définitive du ministère de l'Éducation relève de la compétence du Congrès. Ce n'est décidément pas toujours facile de suivre l'actualité américaine. Aujourd'hui, Donald Trump fait marche arrière dans son offensive commerciale contre le Mexique. Il annonce la suspension de l'essentiel des droits de douane contre ce pays jusqu'au 2 avril. Sur les marchés financiers, on attendait aujourd'hui les annonces de la BCE sur les taux directeurs. La Banque centrale européenne confirme une baisse de 0,25 point de pourcentage à 2,5%. La BCE joue donc la carte de la prudence. La zone euro est confrontée à des risques et de l'incertitude partout, rappelle Christine Lagarde. Elle est connue pour son fort caractère et pourtant, Martine Aubry a versé quelques larmes ce matin. La maire de Lille a annoncé sa démission qui prendra effet mi-mars. À 74 ans, l'ancienne ministre, figure emblématique du Parti Socialiste, dit vouloir laisser place à une nouvelle génération. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
À un an des élections municipales, Martine Aubry cède sa place à son premier adjoint, Arnaud Deslandes, une manière d'organiser sa succession.
Oui, mais ce n'est pas gagné pour autant parce que l'actuel premier adjoint, Arnaud Deslandes, n'est pas très connu par la population lilloise et parce qu'il y aura une forte concurrence en 2026, y compris à gauche. Les écologistes qui avaient failli l'emporter la dernière fois en 2020, ça s'était joué à quelques dizaines de voix, ont bien l'intention d'y retourner. Les insoumis, qui ont nettement progressé électoralement en faisant élire 2 députés dans l'agglomération, ont aussi l'intention de présenter un candidat. Et puis il y aura une candidate macroniste, un candidat de droite, un candidat Rassemblement National. Martine Aubry estime par conséquent qu'il vaut mieux installer son candidat avant terme pour essayer de lui donner un petit avantage. Elle n'est pas la seule, c'est également ce qu'a fait la maire d'Amiens, Brigitte Fourré, qui a démissionné et laissé la place à son premier adjoint Hubert de Genlis en octobre dernier. Et puis le maire de Saint-Amand-les-Eaux, Alain Boquet, vient tout juste lui aussi de laisser la place au chef de file des communistes Fabien Roussel après avoir dirigé la ville pendant 30 ans. Mais c'est un usage peu courant et surtout c'est assez récent, explique le politologue Pierre Mathiot, professeur à Sciences Po Lille.
La politique a beaucoup changé et je pense qu'il fut un temps où quand un maire cessait d'être maire, souvent le maire qui s'arrêtait avait une telle puissance de feu, si vous passez l'expression, une telle notoriété, un tel ancrage, qu'il pouvait se contenter d'aller au bout de son mandat et de dire « voilà mon successeur » et ce successeur n'avait aucun problème à être élu à sa place. Vous voyez, alors que désormais, l'affaiblissement de la figure mayorale, y compris lorsque le maire en place est quelqu'un de connu et de respecté, comme c'est le cas à Lille, amène un certain nombre de maires à se dire, si je veux maximiser les chances de mon successeur de gagner, ben, il vaut mieux que je me retire avant et que je lui permette d'aller au combat en étant déjà maire.
Dans l'histoire politique française, on trouve de fait très peu d'exemples de maires qui ont démissionné avant la fin de leur mandat pour installer leur successeur. Ce fut le cas toutefois pour Édouard Philippe, à qui le maire du Havre, Antoine Ruffnac, a cédé la place en 2010, presque 4 ans avant les élections municipales de 2014, avec succès puisqu'Édouard Philippe a été élu, mais d'une courte tête, avec 52% des suffrages exprimés.
Stéphane Robert, 6 mois de sursis pour Vancorex, l'entreprise de chimie qui emploie 460 personnes à Pont-de-Chay en Isère et qui a été placée en redressement judiciaire, a donc un peu plus de temps pour trouver un repreneur. Les salariés, organisés en société coopérative, ont bon espoir de consolider leur projet de reprise, Mathilde Imberti.
Une audience intérimaire étant prévue le 3 avril, il reste peu de temps aux salariés qu'on cède Séverine Dejoux, CGT Vancorex, pour travailler à leur offre de reprise.
C'est plutôt positif, on aurait aimé un peu plus longtemps, mais on va mettre à profit ce temps pour concrétiser notre offre.
On a un support de collectivités locales. On a également commencé à rechercher des partenaires industriels. On cherche à pérenniser une activité.
Le groupe chinois concurrent de Vancorex avait demandé cette prolongation pour finaliser lui aussi son offre de reprise. Il prévoit a priori de conserver moins d'un emploi sur 10 et de sacrifier la production de sel, un sel utilisé dans les secteurs du nucléaire et de l'espace. Ce qui fait dire à la patronne de la CGT, Sophie Binet, de passage à Lyon, que le dossier revêt un enjeu de souveraineté nationale.
La situation aujourd'hui, elle est gravissime. On a un président de la République qui nous a expliqué hier qu'on rentrait en économie de guerre et ce même gouvernement laisse fermer une industrie stratégique et n'est pas capable de mettre en place une nationalisation temporaire qui est indispensable pour garantir la souveraineté de la France.
Les représentants de Vancorex sont reçus de nouveau demain à Bercy pour faire valoir leur projet de société coopérative.
Mathilde Imberti à Lyon. Malgré un contexte économique et géopolitique difficile, Air France KLM affiche de bons résultats au quatrième trimestre 2024. Sur l'année, la compagnie aérienne fait état d'un bénéfice d'exploitation d'1,6 milliard d'euros. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Ali Kiefer.
En revanche, en 2025, la croissance de la compagnie risque d'être en partie impactée, Hakim, par la nouvelle taxe de solidarité sur les billets d'avion qui vient d'être mise en place.
Oui, des bons résultats en 2024 qui s'expliquent par un bon quatrième trimestre, notamment grâce à la réouverture de Notre-Dame, mais aussi par une hausse des ventes sur ces cabines de luxe qui sont les plus rémunératrices. Pour autant, si cette année, la compagnie se veut confiante, malgré le contexte géopolitique, elle anticipe déjà des pertes sur ses prochains résultats liés à la taxe de solidarité sur les billets d'avion qui doit rapporter au gouvernement entre 800 et 850 millions d'euros, avec également la crainte qu'elle lui fasse perdre des clients, particulièrement sur son marché long courrier, estime Anne Rigaille, sa directrice générale.
La taxe est répercutée sur le prix des billets, mais la question c'est quel impact va-t-elle avoir sur la volonté des voyageurs à prendre l'avion, également sur nos clients étrangers qui peut-être, quand ils viennent en Europe, choisiront de venir ou de repartir plutôt de l'Italie que de la France. Donc ça peut avoir des effets d'éviction du territoire français, des impacts sur l'attractivité de la France, qui on le sait est forte. On estime aujourd'hui que l'impact sur le résultat opérationnel annuel peut se situer entre 90 millions et 170 millions d'euros pour notre résultat.
La directrice générale d'Air France, qui est également revenue sur l'effet de harcèlement qu'ont pu rencontrer certains personnels navigants, est révélée par nos confrères de la cellule Investigation de Radio France, en indiquant qu'une cellule de psychologues téléphoniques vient d'être mise en place, que les formations de sensibilisation allaient continuer et que les salariés avaient déjà été sanctionnés.
À 19h, Hakim, nous reviendrons avec vous sur le premier lancement commercial d'Ariane 6. Après plusieurs reports, la fusée a finalement décollé depuis la Guyane. L'essor de l'intelligence artificielle va-t-il entraîner la destruction massive d'emplois? Dans le cinéma notamment, acteurs et doubleurs se sentent menacés. Eh bien, la dernière décision d'Amazon ne devrait pas les rassurer. Le groupe américain annonce en effet des programmes de fiction doublés grâce à l'intelligence artificielle, Benoît Grossin, et lance une première vague de propositions sur sa plateforme de streaming Prime Video.
Cela ne concerne pour l'instant que 12 films et séries avec du doublage en anglais ou en espagnol destinés au marché latino-américain. Le géant Amazon assure que Prime Video utilise l'IA pour des productions qui n'auraient pas sinon été doublées par des acteurs. Le film argentin Mi Mamá Loca, le film américain Long Lost ou encore le long métrage d'animation espagnole La Légende du Cid. Prime Video n'est pas la première plateforme à profiter ainsi de l'intelligence artificielle. YouTube, depuis fin 2024, donne déjà la possibilité à des créateurs de vidéos en anglais d'être doublés automatiquement via l'IA. Mais il ne s'agit pas de films ou de séries, comme c'est le cas désormais sur la plateforme d'Amazon. Et si les partisans du doublage IA soutiennent que cette technologie permet d'assurer des doublages pour des films peu populaires qui ne sauraient exister autrement pour des raisons économiques, le monde réel du doublage s'inquiète et s'insurge, notamment en France, où 15 000 emplois sont en jeu selon le collectif Touche pas ma VF, qui a récemment dénoncé une tentative de recréation grâce à l'IA de la voix de l'acteur disparu l'an dernier, Alain Dorval, l'historique voix française de Sylvester Stallone, pour le film Armor, qui sera bientôt disponible sur Prime Video justement, avec un vrai doublage finalement, celui de l'acteur Michel Vignier. Mais face au risque grandissant de l'IA pour leur métier, les professionnels demandent au pouvoir public des garanties dans une pétition intitulée « Pour un doublage créé par des humains pour des humains » qui a déjà recueilli plus de 165 000 signatures.
Merci Benoît Grossin. La météo, le soleil dominera le plus souvent demain, mais il y aura des nuages parfois pluvieux dans l'ouest et un ciel plus agité sur la chaîne des Pyrénées et en bord de Méditerranée. Au lever du jour, il fera de 3 à 12 degrés. L'après-midi, les températures seront comprises entre 15 et 20 degrés.